Il vient de se produire un accident si étrange que je ne puis m'empêcher de le consigner, bien que vous alliez très probablement me voir avant que ces papiers ne soient en votre possession. Lundi dernier, 31 juillet, nous fûmes presque prisonniers de la glace. Celle-ci encerclait le navire de tous côtés, lui laissant à peine la surface où il flottait. Notre situation était quelque peu dangereuse, d'autant plus qu'un brouillard assez épais nous environnait. Nous décidâmes d'attendre, espérant quelques changements de l'atmosphère et du temps. Vers 2 heures, la brume se leva et nous pûmes contempler, s'étendant dans toutes les directions, de vastes et irrégulières plaines de glace qui semblaient être sans fin. Certains de mes camarades s'inquiétèrent et moi-même, tout en ne perdant pas mon calme, je n'étais pas sans crainte quand un spectacle étrange attira soudain notre attention et nous fit oublier notre situation. Nous aperçûmes, passant à un demi-mille de nous vers le nord, une carrosserie basse, fixée sur un traîneau tiré par des chiens. Un être qui avait l'aspect d'un homme, mais apparemment de stature gigantesque, était assis dans le véhicule et guidait les chiens. Nous observâmes avec nos longues vues la rapide progression du voyageur jusqu'à ce qu'il disparût parmi les inégalités de la glace. Cette apparition suscita notre étonnement. Nous étions, nous semblait-il, à plusieurs centaines de milles de toute terre, mais cette apparition paraissait prouver qu'il n'en était pas ainsi en réalité, et que nous n'étions pas si éloignés des terres que nous le supposions. Encerclés comme nous l'étions par la glace, il nous était impossible de suivre la trace du traîneau que nous avions observé avec la plus grande attention. Environ 2 heures après cet événement, nous entendîmes la mer mugir. Avant la nuit, la glace se brisait et notre navire était libéré. Cependant, nous attendîmes jusqu'au lendemain matin par crainte de heurter dans l'obscurité ces grandes masses détachées qui flottaient depuis la dislocation de la glace. Je profitai de cet arrêt pour me reposer quelques heures. Le matin, dès qu'il fit jour, je montai sur le pont et y trouvai tous les marins groupés d'un seul côté du vaisseau, causant apparemment avec quelqu'un qui était à l'extérieur. C'était en fait un traîneau, semblable à celui que nous avions vu la veille, qui avait été porté vers nous dans la nuit sur un grand fragment de glace. Un seul des chiens vivait encore. Mais à l'intérieur du véhicule, il y avait un être humain que les marins tentaient de persuader de monter à bord. Ce n'était pas, comme l'autre voyageur qui nous avait paru l'être, un sauvage habitant de quelque île inconnue, mais bien un Européen. Quand j'apparus sur le pont, le maître d'équipage annonça « Voici notre capitaine, il ne vous laissera pas périr en mer. » En m'apercevant, l'homme m'adressa la parole en anglais, avec cependant un fort accent étranger. « Avant que je ne monte à votre bord, dit-il, voulez-vous avoir la bonté de m'informer de votre destination ?» Vous pouvez concevoir mon étonnement en entendant poser pareille question par un homme en danger de mort et pour qui j'aurais cru que mon navire serait une ressource qu'il ne voudrait pas échanger pour le plus précieux des trésors que la terre pouvait lui offrir. Cependant, je répliquai que nous faisions un voyage de découverte vers le pôle Nord. Cette réponse parut le satisfaire. Et il consentit à monter à bord. Grand Dieu, Marguerite, si vous aviez vu l'homme qui capitulait ainsi pour sa sécurité, votre surprise aurait été extrême. Ses membres étaient presque gelés, et son corps terriblement émacié par la fatigue et la souffrance. Je n'avais jamais vu un homme en si pitoyable état. Nous entreprîmes de le transporter dans une cabine, mais dès qu'il quitta le grand air, il s'évanouit. Nous le ramenâmes donc sur le pont, nous le ranimâmes en le frottant avec de l'alcool et lui fîmes absorber une petite quantité de celui-ci. Dès qu'il montra quelques signes de vie, nous l'enveloppâmes dans des couvertures et nous le plaçâmes près de la cheminée de la cuisine. Il revint lentement à lui et mangea un peu de bouillon, ce qui le revigora merveilleusement. 2 jours se passèrent de cette manière avant qu'il ne fût capable de parler. Et plus d'une fois, je craignis que ses souffrances ne lui eussent fait perdre la raison. Quand il eut recouvré quelques forces, je le fis transporter dans ma propre cabine et m'occupai de lui autant que les devoirs de mes fonctions me le permettaient. Je n'ai jamais vu une créature plus intéressante. Ses yeux ont généralement une expression d'égarement et même de démence, mais lorsqu'on lui témoigne quelque gentillesse ou qu'on lui rend quelque petit service, Son visage s'illumine d'une lueur de bonté et de douceur que je n'ai jamais vue ailleurs. Mais il est généralement mélancolique et désespéré. Parfois, il grince des dents comme si le poids des malheurs qui l'oppressent lui était insupportable. Lorsque mon hôte fut un peu rétabli, j'eus beaucoup de peine à le tenir à l'écart de mes hommes qui désiraient lui poser 1000 questions. Je ne voulais pas qu'il fût tourmenté par leur futile curiosité. La guérison de son corps et de son esprit dépendant d'un total repos. Une fois, cependant, le lieutenant lui demanda pourquoi il s'était aventuré si loin sur la glace dans un si étrange véhicule. Sa figure exprima instantanément la plus profonde tristesse et il répondit « Pour chercher quelqu'un qui me fuyait. » « Et l'homme que vous poursuiviez voyageait de la même façon que vous ?»« Oui. » »« Alors je pense l'avoir vu. » La veille du jour où nous vous avons recueilli, nous avons vu quelques chiens tirant sur la glace un traîneau où se trouvait un homme. Ceci éveilla l'attention de l'inconnu, et il posa une multitude de questions concernant la route que le démon, ainsi le nomma-t-il, suivait. Aussitôt après, quand il fut seul avec moi, il me dit « J'ai sans nul doute excité votre curiosité, aussi bien que celle de ces braves gens, mais vous êtes trop discret pour m'interroger. » « Certainement, je serais véritablement très impertinent et inhumain si je vous troublais par mes questions. » Et cependant, vous m'avez sauvé d'une situation étrange et périlleuse, vous m'avez ramené à la vie avec bienveillance. Bientôt, il me questionna pour savoir si, à mon avis, la rupture de la glace aurait détruit l'autre traîneau. Je répondis que je ne pouvais le renseigner avec certitude. La glace ne s'était brisée qu'aux environs de minuit et le voyageur pouvait alors être arrivé dans un endroit sûr. Mais tout cela n'était que conjecture. À partir de cette époque, un nouveau souffle de vie anima le corps affaibli de l'étranger. Il manifesta le plus grand désir d'être sur le pont afin d'y guetter le traîneau qui nous était déjà apparu auparavant, mais je pus le persuader de rester dans la cabine. Il était trop faible pour supporter le froid glacial de cette atmosphère. Je lui promis que quelqu'un veillerait à sa place et l'avertirait si quelque objet nouveau se présentait. Tel est le journal que j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui, de cet étrange événement. Mon bizarre passager a peu recouvré la santé, mais garde le silence et paraît mal à l'aise quand quelqu'un d'autre que moi entre dans sa cabine. Cependant, ses manières sont si conciliantes et si douces que tous les marins s'intéressent à son sort, bien qu'ils aient peu de rapport avec lui. Quant à moi, je commence à l'aimer à l'égal d'un frère, et son chagrin profond et constant m'emplit de sympathie et de pitié. Il a dû dans ses jours heureux être une noble créature, puisque dans son malheur, il se montre si attirant et si aimable. Dans une de mes lettres, je vous disais, ma chère Marguerite, que je ne trouverais pas d'amis sur l'immense océan, et voici que je viens de rencontrer un homme à qui j'aurais été heureux de donner le doux nom de frère avant que le malheur n'eût dérangé ses esprits. Je continuerai à bâton rompu ce journal concernant l'étranger si toutefois j'ai quelques nouveaux incidents à noter. 13 août 1700. Mon affection pour mon hôte augmente de jour en jour. Il excite à la fois mon admiration et ma pitié à un degré étonnant. Comment pourrait-on voir une si noble créature rongée par la misère sans ressentir de plus poignant chagrin? Il est si doux, et cependant si imposant, son esprit est si cultivé. Quand il parle, ses paroles sont choisies avec l'art le plus délicat, et elles coulent avec une aisance et une éloquence incomparables. Maintenant, il a recouvré presque totalement ses forces et il est continuellement sur le pont à guetter apparemment le traîneau qui précédait le sien. Cependant, bien que malheureux, il n'est pas complètement absorbé par sa propre misère au point de ne pas s'intéresser profondément au sort de son prochain. Nous parlons souvent de mes projets que je lui ai dévoilés en toute franchise. Il a écouté avec grande attention mes arguments en faveur de mon éventuel succès et approuvait chaque menu détail des mesures que j'avais prises pour assurer celui-ci. La sympathie qu'il me témoigna m'a tout naturellement amené à employer le langage du cœur afin de lui exprimer la brûlante ardeur de mon âme, et je lui dis avec tout l'enthousiasme qui m'animait que je sacrifierais joyeusement ma fortune, ma vie, mes espoirs au succès de mon entreprise.